Atikamekw, berbères ou pygmées, ces peuples, oubliés de la francophonie, parlent pourtant notre langue et partagent une partie de notre histoire. Cet été, ils ont la parole sur France Inter. Aujourd'hui, la France avec les Kabyles et les Touaregs.
Dans l'exil, on ne contrôle rien. Je suis revenue avec l'idée de repartir, comme tout le monde. Il y a comme des forces contre vous, et puis coupé du soleil, coupé de sa terre, coupé de ses ancêtres, on ne contrôle plus rien.
Dernier épisode, vivre loin de sa terre.
L'exil par rapport à quel pays? Mais la terre nous appartient. La terre, il n'y a pas d'exil. L'asile, oui. L'asile, c'est la terre des hommes d'aujourd'hui. Partout.
Voyage en terre indigène.
Soyez la bienvenue.
Ça va ?
Bonjour.
Les peuples francophones.
J'ai fait des études.
Une histoire oubliée.
Qu'est-ce qui se passe ?
Une série d'Anne Pastor.
Quelle vie après l'exil ? Les Touaregs et les Kabyles sont des berbères, les premiers peuples d'Afrique du Nord, les Amazirs, les hommes libres. Dans l'exil, forcés ou choisis, beaucoup sont venus en France, l'ancienne puissance coloniale. Mais chacun a sa propre façon de se reconstruire et de vivre loin de sa terre. Les Kabyles d'Algérie sont plus d'1,5 million à vivre ici. En banlieue parisienne, des femmes ont recréé leur pays avec un brin de nostalgie. Elles ont trouvé une terre d'asile et leur exil rime avec liberté. Les Touaregs, eux, ne sont que quelques centaines. Ces nomades du désert ont perdu leur territoire, aujourd'hui réparti entre 5 États dans la bande du Sahel. Ils sont menacés par la pression islamiste. La France est un refuge en attendant le retour. Et leur exil rime avec résistance et nostalgie. Voyage entre terre d'asile et pays perdu.
Vous êtes en terre indigène sur France Inter.
Alors la première fois que vous êtes arrivé en France par le train, vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti, vous qui veniez du pays?
Déjà quand j'étais venu, j'ai vu que tout était grandiose, c'était incroyable. Les gares, il y avait énormément de monde qui allait partout, à gauche, à droite. Je me posais la question, mais tous ces mondes, ils vont où? Et en fait, c'est ça un peu qui m'a frappé. C'est le nombre de voyageurs, le nombre de gens qu'on croise. Et surtout, c'est la différence. Je vous croisais beaucoup de gens de plusieurs groupes ethniques différents. Tu vois, les gens se passent sans se dire bonjour, alors que dans mon pays d'origine, il est difficile de dépasser quelqu'un sans lui dire bonjour. C'est vu même comme un manque de respect. Et ça m'a frappé de voir toutes ces couleurs, toutes ces différences et tout ce monde. C'était une autre dimension.
En France, avec les Touaregs en exil.
On va descendre, on peut prendre les métros B.
Alors là, on a quoi? On a trois stations?
Deux stations. Bon, dans les quartiers de Villeurbanne, je connais deux familles Touaregs. Il y a moi et à côté de chez moi, des voisins, il y a des migrants Touaregs qui ont fui la guerre en Libye. Prochain arrêt. Comme on vient d'une culture différente, tu vois, on s'ennuie souvent avec les blagues françaises, tu vois, c'est différent. Si on croise d'autres Touaregs, la discussion passe mieux, on se retrouve, on a l'impression d'être au pays.
Les Touaregs n'aiment pas montrer leurs sentiments. C'est à demi-mot et avec beaucoup de pudeur qu'ils disent leur douleur de vivre loin du désert. Omar a 27 ans. Il est originaire du Niger. Son père a été l'un des premiers nomades à suivre l'éducation coloniale française. Il y a quelques années, il a envoyé son fils à l'université en France. Aujourd'hui informaticien, Omar s'est bien intégré. Mais son cœur est toujours au pays.
Bonjour.
Bonjour. Daoud Ahmed.
Et vous venez ?
Vous venez du Niger.
Et quand il croise un autre Touareg, il se sent revivre.
Lui, on s'est rencontrés à l'ouverture de l'exposition au musée de Confluence. C'est là où j'ai croisé tous les Touaregs de Lyon.
Là, on est devenus de vrais amis. Ce qui lui a poussé à aller là-bas, c'est parce qu'il avait la nostalgie de la culture. Il voulait aller voir tous les gens qui se rendent là-bas, les Touaregs. Quand il ne connaissait personne, tu vois, il était tout seul. Voilà. Donc, avec les amis, au moins, s'il discute, il oublie, il s'amuse.
Là, vous avez rencontré un frère.
Oui, j'avais vraiment ce besoin de croiser des gens de ma culture, échanger, blaguer, s'amuser avec eux.
Et puis là, en ce moment, à Lyon, il y a cette exposition au Musée des Confluences qui rend hommage à votre culture.
Il y a beaucoup de jeunes qui vont découvrir cette culture, qui essayent de survivre. Avec tous ces conflits, c'est difficile de préserver la culture comme ça. Les gens là, ils essayent de sauver leur vie, c'est la priorité.
C'est un peu votre cas ?
Dans Kalouan.
Oui, c'est son cas.
Au Niger, vous habitez où ?
Pas loin de la frontière malienne et il y a souvent des incursions des bandits. Il avait quitté son pays et il est parti en Libye. Et il est venu en Libye, il a trouvé un pays en guerre. Il a migré en Italie et pendant la traversée, ils étaient dans des petits bateaux de cette taille.
Un petit canot.
Et souvent, ça s'est dégonflé. Il a fallu qu'on le secoure. Ça l'a durci. Il sait qu'au passé, il a failli mourir. Et voilà.
Il
n'a pas pu rester en Italie. Il a préféré la France parce que c'est un pays francophone. Donc, c'est pour cela qu'il est venu ici en France.
Alors là, vous êtes ici depuis 3 mois. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ?
Mon rêve maintenant, c'est vraiment d'apprendre le français et d'avoir des papiers. Quand tu n'as pas de papiers, tout est difficile.
Salaire de travail, n'a pas de travail.
De travail, tu n'as pas de salaire.
C'est difficile.
Vous avez quel âge ?
18.
Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ?
Non.
Il a dit qu'il ne va pas conseiller quelqu'un de faire ce trajet.
Pourquoi ?
Beaucoup de risques. Déjà, tu peux mourir en Libye. Tu peux être noyé. Il a la nostalgie un peu du pays, de la culture. Il y a ça aussi. Lui, il aime toujours sa vie nomade.
Et vous, vous êtes originaire de quel endroit ?
Moi, je suis originaire d'Agadez. Je suis de la nouvelle génération de Touaregs sédentaires. Mais mes parents étaient nomades.
Mais en même temps, votre rêve, c'est de repartir dans votre pays ?
Oui, dans 2 ans, 3 ans max. C'est pas en fait que j'ai pas envie de rester là. En fait, c'est que j'ai de la nostalgie de chez moi.
Les Touaregs, je pense, vivent avec beaucoup de tristesse et de douleur cet éloignement du pays.
Hélène Clodo-Aouad, anthropologue.
Le rêve des Touaregs, c'était pas d'émigrer en Europe. Leur rêve, c'était de rester dans leur pays. Ça explique aussi le peu d'appétence à partir. C'est vraiment quand ils ne peuvent plus faire autrement, avec toujours l'espoir de retourner un jour dans leur pays. Les Touaregs ont conservé une indépendance d'esprit qui fait qu'ils ne sont pas colonisés sur ce plan-là. Ils ne voient pas dans l'Europe, et dans la France en particulier, un Éden, mais plutôt une puissance qui les a colonisés et qui les a condamnés à cette division entre des États. Le nomadisme, bien sûr, c'est un mode de vie, mais c'est aussi une pensée. Et je pense qu'ils vivent le territoire comme un corps, leur corps presque. Ils connaissent les moindres cailloux de ce territoire, les moindres traces, la moindre végétation, les minéraux. Ils font corps avec leur pays. Le désert fait partie des Touaregs eux-mêmes. Ils le vivent.
Anna, c'est la première fois que tu parles avec Touareg.
Vous êtes en terre indigène.
Il a dit c'est la première fois que tu parles avec un Touareg.
Non, j'en ai déjà rencontré.
Sur France Inter.
Ma résistance, c'est plutôt la conservation de la culture. C'est difficile quand tu es loin de chez toi de garder tout cela. Ça s'effrite de petit à petit. J'essaie de garder au maximum tout ça dans mon cœur, mais c'est difficile. Et en fait, c'est notre culture d'un côté, elle nous enseigne à ce qu'on s'adapte aux mœurs de partout là où on va. C'est une manière de penser. Il y a l'esprit nomade, c'est tout ça. Hein.
Et voilà, Omar et son ami sont en train de préparer un repas traditionnel.
Toi, tu vas manger avec ça. C'est une cuillère touareg. C'est du riz à la sauce du foie du mouton.
Bismillah, ça soutenu. Et moi, c'est encore de ma droite à Taïwan. C'est bon?
Oui.
C'est bon, c'est très très bon.
Dernier épisode, vivre loin de sa terre.
Et pendant ce temps-là, vous, vous envoyez des messages.
C'est, des gens qui sont sans frontières, les Touaregs. On a toujours quelqu'un qu'on connaît en Libye, en Algérie, au Burkina, au Mali. Skype et WhatsApp sont vraiment des fenêtres au monde. Ça nous désenclave.
Et là, dans ton téléphone, tu as mis de la musique, Touareg?
Oui, ça c'est inarrivé. C'est, en fait, c'est des gens qui étaient en exil en Libye. C'est là-bas que le groupe s'est formé. C'est là où ils ont commencé à enregistrer des cassettes pour parler de leur souffrance aussi en Libye, le fait d'être loin. Et ces cassettes, ils les envoyaient au Mali et les enregistraient avec des vieux postes radio. C'était à peu près comme ça que le groupe a commencé.
Ouais, c'était dans les années 80.
Oui, c'était beaucoup avant mon ère. Tinariwen, maintenant, c'est la référence. C'est les ambassadeurs même de la culture Touareg ou ses revendications.
Les Tinariwen sont des princes sans royaume, des nomades sans désert. Ce soir, ils sont à Elancourt, en banlieue parisienne. Dans les coulisses du théâtre, les musiciens jouent au domino, d'autres discutent avec leurs frères d'exil. De concert en concert, de Tokyo à Stockholm, toujours le même rituel. Comme si le monde était un vaste campement nomade.
C'est beau l'été. Le premier qu'on a déjà vu, c'est amer comme la vie. Le deuxième, doux comme l'amour. Bon, le troisième, on dit siave comme la mort. C'est pas gentil, mais c'est comme ça.
Vous discutez de la couleur du thé.
Ouais.
Hein.
Nous, on reconnaît la bonté du thé par ses couleurs. Et Touareg est assis sous un tamaris, écoutant sa théière qui bouillit, la plus belle mélodie. Il te dit que ça fait partie des choses qui sont bien. Tu écoutes les bruits là, c'est magique. Si tu veux l'inspiration de la musique Touareg, c'est les espaces, la nostalgie, la poésie. Et l'été, il fait partie dans les poésies. Ça fait partie des clés de tout ce qu'ils chantent.
Quand j'étais enfant, moi j'étais dans la brousse chez moi dans le nord des Mali. Non, les airs ils nous manquent bien sûr. Quand tu te réveilles dans le désert, il y a toujours une sorte de silence qui est bien pour faire la musique ou pour faire quelque chose. C'est vrai que ce qu'on fait aujourd'hui, ça parle de la rébellion, on parle d'exil, on parle de la souffrance de communautés touareg dans les Sahara, que ce soit au Niger, ou au Mali, ou en Algérie, un peu partout. Donc c'est notre responsabilité aujourd'hui d'apporter l'espoir à la communauté, c'est parce qu'on chante leur douleur dans la musique.
C'est toujours les maïtadjaknas. Déposer les armes, on fait quoi avec guerre? Qu'est-ce qu'on fait avec guerre? On fait quoi exactement avec guerre? Les gens, ils sont partis, ils ont quitté. et la terre elle commence à se déchirer. Il peut voir un seul mot qui peut arranger les choses mieux que 1000 avions et 1000 militaires.
C'est quoi
et
ce mot?
La paix. Al-Rafiyat. Amesilay. C'est ça la paix.
Merci, Abdallah. Je vous laisse vous préparer.
Voyage en terre indigène sur France Inter. Une série d'Anne Pastor.
Excusez-moi. Et je suis un journaliste qui vient du désert et je travaille pour une chaîne des Touaregs.
Oui.
Ce soir, qu'est-ce que vous sentez et pourquoi vous êtes là?
Je suis née au Maroc, je suis venue quand j'avais 9 ans en France et j'ai grandi ici. Quand j'ai compris les chansons de Assaut, quand j'entends tout ça, c'est des mots. Je me retrouve tout simplement parce que c'est une musique qui crée du lien. Et du coup, peut-être c'est pour ça en fait, c'est qu'il y a une histoire d'exil, de quête d'identité.
Tina Riwen, tu sais ce que ça veut dire, Malik? C'est les déserts. Le groupe s'appelle le désert au pluriel. Ça fait rêver, hein?
Kiwarine. Oula. J'arrive pas. Tina Riwen.
Ça, c'est le mal de l'exilé, je dirais. Il y a un besoin intense de se rassembler, de se voir, de ne pas couper le lien. La musique, tout ce qui peut les faire rêver, sont bons à jouer, à chanter, à composer. D'autant que ces productions, il faut le rappeler, se font en langue touareg. C'est une façon aussi de ne pas plier sa pensée dans l'ordre établi des concepts, des idées, de la langue d'accueil. Parce que la manière de formuler les choses en touareg est particulière. Et je trouve que c'est très important que les touaregs continuent à produire dans leur langue, dans leur imaginaire. Quand on vous arrache votre territoire, qu'est-ce qui reste? Il reste à inventer des modes d'existence où vous pouvez continuer à être nomade dans un territoire imaginaire. C'est toute l'importance de l'art musical, de la poésie, de la peinture que développent les Touaregs. Et je crois que ça n'est pas un hasard. C'est parce que il y a aussi une souffrance qui amène à exprimer non seulement sa douleur, mais ce qu'on aimerait voir se réaliser.
Droit et loi, abat obenta sekalim fasi.
Vous êtes en terre indigène. Sur France Inter.
Dans cette immense cité vide qui m'a ravi, pays mon souffle désertique. Je suis Touareg, Sahara sahélien. Je suis, mon territoire va de la Méditerranée au Sahel. Je ne me reconnais pas dans aucun état du monde et surtout état bananier africain. Awad, c'est mon nom, c'est un nom d'auteur. Awad, c'est mon arme, c'est tout. Les camarades combattants Awad avec sa férographie.
Vous n'aimez pas le mot exil?
L'exil par rapport à quel pays? Mais la terre nous appartient. La terre, il n'y a pas d'exil. L'asile, oui. L'asile, c'est la terre des hommes d'aujourd'hui. Partout.
Alors, rappelons que vous êtes né dans un campement, que vous avez connu une vie de nomade traditionnelle. Et puis, vous êtes arrivé jusqu'ici, avec toujours dans votre bagage ces mots, cette poésie.
J'ai vécu une vie d'homme sans Occident. Ce que j'ai vécu, c'est pas possible de les vivre comme liberté. L'homme, il est libre. Même les animaux, ils sont là, comme des frères, comme des alliés. Toute moindre chose qui vivre dans l'univers, qui notre imaginaire arrive à atteindre, en fait partie. Je n'ai jamais regardé aucune chose que je ne l'ai pas passer par les grilles de la pensée touareg. Et ça, c'est mon école, cette éducation, celle qui fait de l'homme comme un système qui capte tout à chaque instant. Et même quand il dormait, quel gâchis pour nous, pas nous les Touaregs, pour l'humanité tout entière, de détruire ça. La poésie, c'est mon alchimie, c'est mon fusil. Mais la résistance, pour moi, c'est ma religion. Et le malheur du Sahara, c'est qu'il y a l'uranium et le pétrole en Libye, en Algérie. Quelle poésie il faut faire dans un pays pareil, sauf celle de recycler le chaos, les déchets des bombes atomiques, les déchets du colonialisme, les déchets de la dépossession. Nous, tout ce qui nous a été arrivé, le pire de tout, le plus terrible, c'est la dépossession de notre imaginaire. Ils l'ont détruit, tout simplement. Ils l'ont détruit, écartelé. Pour ne pas parler d'écartèlement du territoire. Le corps Touareg, par exemple, il est écartelé aujourd'hui entre 5 nations. 5. Ils sont étrangers, immigrés sur leur propre territoire. On n'a aucun droit sur notre sol, même pas celle de creuser un puits, de boire de l'eau. On n'a pas le droit d'enseigner à nos enfants, de créer des écoles. On n'a pas le droit de se réunir pour décider comment gérer la mort. Qu'est-ce qu'il y a que la poésie qui nous reste? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Touaregs perdus. On leur a arraché leur âme, leur identité. Toutes les turbulences actuelles, avec tous ces fanatismes idéologiques, ce n'est pas notre voie. Il faut aujourd'hui, au lieu d'être nomade comme autrefois, il faut être surnomade. Au lieu d'être Touareg d'aujourd'hui, il faut être un autre Touareg. Je pense que tout homme qui est loin de chez soi, il doit avoir son pays comme un petit baluchon.
À quelques dizaines de kilomètres de là, à Drancy, d'autres mots, d'autres poésies. Des femmes kabyles ont trouvé en France une liberté nouvelle.
Dès que je fais un poème ou je le chante et tout ça, je me sentais bien.
Même si leur cœur est toujours berbère.
Je parle par exemple celui qui a laissé son pays, il est rentré en France, il a laissé ses parents, sa famille. Comment il sentit seul ici. Il dit « J'ai le chvev de Maoulanis, ville roi vin, y'a roi raïs. »
استنيت شوي سمعني غناك خليني حي في قصور السقف وسروج البيت خليني شوية
Maria, ça va? Et toi?
Alors ici, on est cité Gagarine, quartier Avenir. Et d'ailleurs, le Gagarine était présent le jour de l'inauguration.
Vous êtes en terre indigène, sur France Inter.
Je suis arrivé à Drancy à l'âge de 10 ans avec mes parents. Et moi, j'ai découvert, en fait, qu'il y a beaucoup de Kabyles. C'était quelque chose qui ne... Un peu comme les Italiens, comme les Portugais. Un débarque à Drancy, donc les cousins arrivent, ils se rejoignent comme ça, et patati patata. On a des familles qui sont là depuis parfois 3 générations. Ah bah, y a Nadia qui arrive, elle a plein de poèmes, donc elle raconte plein d'histoires, Nadia. Alors, viens, viens. Ça va, Nadia? Tu vas bien? Bah, elle fait partie de ces mamans qui transmettent l'histoire par le verbe. Mais faites-la slammer en kabyle.
C'est gentil, Nadia.
Tiens.
Nadia est arrivée en 2001. Elle a rejoint son père installé en France depuis les années 60. Elle a alors 25 ans. Dans ses bagages, Nadia a emporté son mode de vie et sa culture.
La poésie, voilà, les robes kabyles, des fois je décore même les salons et tout ça. Toujours j'ai quelque chose de kabyle, une touche kabyle, voilà.
C'est une nouvelle vague d'immigration après la décennie noire des années 90 en Algérie. Des familles, des petits villages de Kabylie s'exilent, laissant derrière elles leurs montagnes et leurs terres.
Comment décider des choses traditionnelles? Parce que chez nous, il n'y avait pas des psychologues, il n'y avait rien. Donc la femme, quand elle se sentit quelque chose, il faut qu'elle chante.
Qu'est-ce que c'est que ce cahier sur la table que vous venez de sortir?
Là, c'est les... Tout ce que j'ai écrit, tout ce que je ressentis, il est là.
Et alors quand vous êtes rentrée à la maison, vous arrivez, vous prenez votre petit cahier, vous installez.
Je suis tout le temps avec les feuilles, les cahiers, les butins de salia, il y a tout ici. Dès que je fais un poème ou je le chante et tout ça, je me sentais bien.
Et c'est là où vous écrivez votre pays, votre culture. Il y a des feuilles absolument partout, il y a du hazoul pour dire bonjour, des petits bouts de papier. Oui. Il y a même écrit sur des tickets de caisse, oui. Des poésies de Nadia.
Mourdin mikta widi yomousini, amikhen zhoudi tfsous, mi tuqsint sujaldi hujilin.
Alors, vous êtes née en Kabylie. Ça a été difficile de quitter ce pays quand finalement votre mari a été menacé?
Oui, c'était difficile, mais on n'a pas le choix. Donc, on a pris la décision, on est rentré ici.
Votre vie en Kabylie, oui. Elle était difficile, difficile. En dehors des menaces?
Oui, c'était difficile, oui.
Enfermée dans une chambre pendant quelques années?
Trois ans. Dans le noir. Ouais,
vous êtes plein de pudeur.
En fait, je les raconte dans les poèmes. La première que j'ai fait, j'avais, je crois, 16 ans. Je parle par exemple celui qui a laissé son pays. Il est rentré en France, il a laissé ses parents, sa famille. Comment il est. Il se sentit seul ici, tout ça. Oui, il y a des gens qui sont morts, qui sont morts, qui sont morts, qui sont morts, qui sont morts.
Et on vous sent très ému.
Oui, un peu. Oui, parce que là, je me suis retrouvée là-bas.
Ah, il reste toujours un petit peu cette nostalgie.
Oui. Ah oui, c'est toujours. Ouais. Bah, en fait, ce qui manque, moi, ce que j'aime vraiment, c'est les montagnes. Ouais. Avec les voisins, on est tout ensemble. Oui, il y a Nadia, c'était juste à côté. Il y a ses filles aussi, juste là. Il y a Madame Alout Souria, Fouzia, Samia, Nabila, Linda, Noa. Oh là, c'est pas Rachida. Je les appelle, c'est tout le monde qui vient ici chez moi.
Oui, elle m'invite des fois à dîner, 10 fois on prend un café, 10 fois des goûters pour les enfants. On reste ensemble, on fait des blagues et tout. Sur notre mari, sur notre belle-sœur, belle-mère, tout ça. On parle n'importe quoi.
Et finalement, ici, c'est le lieu où vous pouvez tout dire.
Oui, où on dit tout. Il n'y a pas de limite.
Alors, on suit Nadia qui va dans la cuisine. Où nous accueille une autre Nadia.
Oui, faire parler la tisme, café. Ben oui, c'est ça.
Ici, on est vraiment en Kabylie. Hein. J'ai plus l'impression, moi, du tout, d'être à Drancy, en Île-de-France.
Voilà, ici, c'est comme une famille, en fait.
C'est pas la peine d'aller en Algérie. C'est pas la peine d'aller en Algérie. C'est toujours, deux ans, trois ans, jamais été là.
Je traduis, d'accord? Oui. C'est pas la peine de retourner en Algérie. Oui. Je te jure, ça fait 2 ans, 3 ans que je n'y suis pas allée.
Voilà.
Voilà. Et vous êtes arrivée quand, vous?
2004. Parce que Raoui a abandonné la France.
Elle a choisi la France, c'est à propos de la liberté. Mm-hmm. Pour les enfants aussi. Ils vont faire les études, le travail et tout.
Et voilà, il y a Nadia qui continue à chanter. Elle ne peut pas s'empêcher de chanter.
C'est comme ça, mais notre belle-mère, notre grand-mère. Quand elles font des trucs, tout le temps elles chantent. Mais tu sais qu'est-ce qu'elles chantent? Elles chantent pas des chansons d'amour ou des chansons de politique. Elles chantent de la tristesse qu'elles ont en train de vivre. C'est pas la joie. Ma mère ou ma grand-mère, quand elle vit, elle raconte que la misère qu'elle vit.
Tout d'abord, il y a une tradition d'exil depuis 1914 en fait. Tous les Kabyles ont un parent en exil. Voilà. La France, si vous voulez. C'est une région qui existe dans la culture, dans la mémoire, dans la littérature. La France, elle est présente dans tous les champs, dans toute la poésie. Et les femmes disent, mais j'aimerais bien voir cette France qui a rendu fous les hommes. Et oui, parce qu'il n'y avait que les hommes qui émigraient, pas les femmes. Donc, on est loin, mais on est près. On a l'impression que la France, c'est l'arrière-pays. Je m'appelle Tassadit Yassine et je suis donc directrice d'études à l'école des hautes études. Et vous avez des quartiers, c'est des reproductions de villages entiers de Kabylie. J'étais un peu soufflée de voir les gens, les femmes qui font encore la galette, qui s'habillent comme là-bas, qui roulent le couscous à la maison, alors que les Kabyles de Kabylie achètent le pain ou achètent le couscous tout fait. Parce qu'il y a quelque chose à conserver, vous voyez. Comme ça, on revient au passé.
Et c'est ça qui vous attriste, Nadia?
La misère noire.
Oui, on a vécu la misère, donc si on fait des chants comme ça, tout ça revient. Et là, elle a envie de pleurer.
Voilà. Pleurer, non, c'est fini, ça. C'est fini. Hein?
La misère, c'est fini. Dieu merci, la France merci.
Non. Elle a dit, en fait, le passé, c'est pas d'amour et tout ça. Voilà, le jour qu'il a demandé au mariage, elle était chez sa tante. Elle savait même pas qu'elle va se marier.
Vous avez appris à l'aimer maintenant?
Maintenant, ça va. Ça fait maintenant 35 ans.
Alors vous êtes venu pour des raisons économiques, politiques. Pourquoi vous êtes venu en France?
Politique, j'aime pas vivre en Algérie. Même tu me donnes des milliards, des billiards, je pars pas. C'est mieux ici. Là-bas, si je sors comme ça, chez une voisine, les autres voisines qui me connaissent, elle fait quoi là-bas? Pourquoi elle est partie? Et si tu sors, tu sors pas, tu es libre.
Et ça vous manque pas un petit peu? Il y a pas des choses qui vous manquent?
Depuis que je connais le groupe. Qu'on est là au Drancy, ça ne m'intéresse pas du tout l'Algérie.
Ce qui vous intéresse, c'est la Kabylie des femmes de
Drancy. La Kabylie, déjà, il est là. Entre nous, on mange, qu'est-ce qu'on mange au bled, on raconte les histoires de bled, on fait des fêtes comme au bled, il ne manque rien au bled.
Et voilà, vous retrouvez ici ensemble. Et le mari, il accepte.
Oui, maintenant, il accepte.
Mais avant, non. En Algérie, on était toujours enfermés. Voilà. Par exemple, si je vais retourner là-bas, je n'ai pas le droit de sortir toute seule. Ouais. Pour y aller chez ma soeur, 10 mètres. Il faut que quelqu'un qui m'accompagne. Tout ça, on l'a supprimé dans notre contrat.
Finalement, vous avez fait votre petite révolution.
Voilà, c'est ça. On a fait notre Kabylie.
Ça va? À tout à l'heure. complice.
Regardez-la.
Elles ont gagné leur liberté beaucoup. D'ailleurs, il y avait une femme qui me disait « Mais ici, j'ai des droits, on me reconnaît. » Et ici, elle me disait « Je peux marcher en tapant des talons sur le sol. » Vous voyez, je peux m'affirmer. Alors que là-bas, c'est silence, inexistence. Elles sont écrasées.
Et finalement, en arrivant ici, elles s'en sont libérées.
Absolument. Une autre femme, ici, qui disait qu'elle avait rêvé qu'elle était sur la Lune. Et sur la Lune, elle disait ceci. Eh bien, là-bas, il y avait la loi de l'apesanteur. Mon mari ne peut pas me frapper. Ce n'est pas c'est extraordinaire.
Mais écoutez, mais tu as de la guerre. Eh bien, justement, moi, je vais récupérer Ayoub et on se retrouve là. On est les gars de Tsahama, Zia et Soria. C'est mes voisines. Copines, voisines, sœurs, famille et tout.
C'est ce qu'on fait de temps en temps, on se retrouve tous à côté de l'école pour récupérer les enfants, prendre un petit goûter ensemble. Et on se retrouve tous avec les enfants, elle leur raconte des histoires, elle leur transmet plein de choses. Voilà.
Et on va se diriger vers la maison de Nadia pour une sorte de goûter culturel. Et il y a deux mamans et six enfants avec nous. Vous invitez tout le monde. Tous les Kabyles de la cité Gagarine sont invités par Nadia aujourd'hui.
On est toujours ensemble, pour le meilleur et pour le pire.
Voyage en terre indigène sur France Inter. Une série d'Anne Pastor.
La 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 la. Ça raconte quoi, les enfants?
La vie kabyle, le quotidien.
Autour d'un feu, la grand-mère a raconté les histoires et les enfants, ils écoutaient, et la mère, elle tissait. C'était l'ordinaire d'une famille berbère.
Mais il y a de moins en moins de transmissions comme ça, traditionnelles, surtout ici, quand on est en France.
Dans pays, exactement. Mm-hmm. Mais bon, on essaye de garder ça. Mais il y a par exemple Nadia, il y a une autre dame qui raconte aux enfants. Même moi, à mon âge, j'apprends plein de choses de notre culture.
Finalement, d'avoir pu recréer ce village kabyle à la cité Gagarine, c'est ça qui fait que c'est moins difficile d'être loin de sa terre.
Depuis qu'on se retrouve, parce que moi, au début, je les connais. Je ne sais pas, ça me fait beaucoup de bien. Avant, je voulais partir chaque été pour voir la famille et tout. Mais là, pour moi, c'est eux ma famille. Et les enfants, ils cherchent à comprendre, ça les intéresse beaucoup. Il faut qu'ils gardent leur culture.
C'est grâce aux femmes que la culture s'est maintenue. C'est par les mères, c'est par les sœurs, c'est par les grands-mères. Dans la Kabylie traditionnelle, les enfants sont élevés jusqu'à l'âge de 5-6 ans dans le monde féminin. Donc tout le passage de la culture, de la langue, des affects, de la magie, de tout ce que vous voulez, passe par les mères. Et c'est pour ça qu'il y a après tout un travail d'organisation, de construction de la virilité. Le garçon est arraché aux femmes pour être complètement du côté masculin. Et ça... Ça a été comme ça pendant des millénaires. L'éducation est laissée aux mères. Les affects sont laissés aux mères.
Vous qui n'avez jamais été à l'école, c'est une sacrée revanche que vous prenez ici.
Oui, c'était ça. Pendant 6 ans, mais c'était en arabe. Mais en français, j'ai appris ici avec ma fille en 2001 quand elle est rentrée au CP1. Je faisais des dictées avec elle. C'est pour ça que je voulais faire quelque chose pour les enfants.
J'aimerais que les méchants partent.
Et ça.
Aujourd'hui.
Mlal ni mazirun.
Rassembler.
Les jdoud dzikhwana tfarhan.
Nos grands-parents, nos ancêtres,
ils vont être fiers. Iliane, j'ai 10 ans. Je suis fière d'être kabyle parce que les kabyles, les berbères, nous, par exemple, notre village, la cité Gagarine, on veut toujours...
C'est bien ça. Bah oui, c'est super, exactement, c'est ça le mot, hein. C'est notre village.
On veut soutien de notre culture. À l'école, oui. Ils connaissent pas ce que c'est Kabyle. Ils disent Kabyle, c'était algérien, c'est la même chose.
On n'est pas reconnu en tant que Kabyle, voilà. C'est ça.
C'est une petite souffrance pour vous?
Pour les petits, oui, bon, moi, je reconnais, je suis fière de l'être. Mais eux, voilà, ils n'arrivent pas à se faire comprendre avec leurs camarades.
Pour vous, parfois, c'est un peu difficile parce que les Kabyles peuvent avoir, pour certains, une réputation un peu trop libre.
C'est ce qu'ils nous disent. Par exemple, on vous parlait du Ramadan aussi. Il y a certains mariés à nous qui ne le font pas. Il y a des femmes qui ne le font pas. Voilà, mais ils sont libres. Et pour eux, on n'est pas pratiquants.
Au stade, il y a la mosquée juste à côté. Hein. Donc, ils me disent toujours, vous faites que chanter, danser.
C'est la débauche, quoi.
Bah, pour eux, oui, pour eux, exactement. Pour eux,
ça le dérange. Tout le monde qui...
Alors, on défile, on va...
Voilà, finalement, vous êtes trop fiers.
Ah, oui. Bien sûr. Parce qu'avant, on a géré. Moi, j'étais en robe Kabyle à Oran. Je me suis fait agresser dans le bus. Aussi, si on met la chaîne avec le Z, là, c'est... Voilà.
Pour eux, c'est une croix.
Voilà.
C'est notre signe berbère, mais pour eux, c'est très mal vu quand on parle le signe amazigh.
C'est mal vu toujours. Mais ici, en France, ça va.
Depuis les années 90, il y a un tournant qui s'est opéré. L'idéologie islamiste est partout dans la société. Partout, même en Kabylie, il ne faut pas se leurrer non plus. Donc, à ce moment-là, ils ont compris fortement que c'était la France leur pays, finalement. Il n'y a plus ce désir de retour, donc on reste ici. Et si on veut rester ici, on s'intègre ici. Et il ne faut pas oublier également que parallèlement à ces berbères, il y a aussi les islamistes, de France et en France. D'où cette réaction-là de repli, on se démarque. On est des berbères de France, on est des franco-berbères. C'est à ce moment-là, surtout depuis les années 90, qu'il y a donc ces césures fortes.
Dans mon métier, j'ai envie d'être président et en même temps, à la France, je vais raconter la culture kabyle parce que il y a des personnes qui ne la connaissent pas.
Moi, je veux être policière.
Pour la sécurité des Kabyles, on a une future policière.
Voilà, et vous voulez rester ici, dans le village Kabyle Gagarine?
Oui, beaucoup. C'est dur de refaire une autre...
Un autre village, recréer un autre village.
Vous ne quittez jamais, en fait.
En plus, l'été, ma mère, elle fait le thé. On joue, nous.
Oui, à la place, le soir.
Les mères, elles discutent.
Exactement.
On a créé un clan.
Les papas avec les papas, ils se retrouvent au stade. Les mamans avec les mamans, les enfants, ils se retrouvent tous ensemble.
On
sort tous sur la place pour prôner les enfants. On porte toutes nos robes kabyles, on se réunit, et même les enfants. On n'est pas gênés. On n'est pas gênés.
Voyage en terre indigène sur France Inter. Dernier épisode, vivre loin de sa terre.
À l'époque, je m'en souviens, c'est qu'on se retrouvait souvent au parc de la Doucette. Et les mamans discutaient au parc, et puis nous, on allait jouer au foot. Et il y avait toujours les mêmes mamans kabyles. Elles s'asseyaient, elles créaient un petit cercle, et puis ça discutait, chacun ramenait à manger, du thé, etc. Donc Hamid Chabani, professeur d'histoire-géographie, 34 ans. Kabyle, d'origine kabyle, voilà. Je suis arrivé à Drancy à l'âge de 10 ans avec mes parents et du coup j'ai fait toutes mes armes dans la ville quoi. Les copains, tout, j'ai tout fait ici.
Vous, enfant de la deuxième génération, vous grandissez comme un enfant de la République.
Oui, totalement. Contrairement à tout ce qui se dit, la République, elle a fait beaucoup pour des gens comme nous, elle a fait beaucoup pour l'ensemble des Français et aujourd'hui je suis un peu triste d'entendre ce qui se dit. Moi aujourd'hui je dois tout à la République, je dois tout au monde associatif, il y a des gens qui sont occupés de nous bénévolement.
Quel lien vous aviez petit et quel lien vous avez aujourd'hui avec finalement votre terre d'origine, votre culture?
La transmission, elle se faisait beaucoup quand j'allais en Kabylie par mes tantes. Voilà, parce qu'on arrive en vacances, il n'y a pas de télévision. Et je me rappelle ma tante qui nous racontait plein d'histoires. Des mouchoirs, comme on dit en Kabylie, des contes. Et elle nous emmenait dans des univers qu'on ne connaissait pas du tout. Et pour nous, c'était, on avait la télé devant nous. Petit à petit, avec mon papa, il nous emmenait un peu partout dans les manifestations qui revendiquaient la reconnaissance de l'identité berbère en Algérie, etc. Il nous transmettait la culture kabyle à travers la musique. Franchement, c'était pas notre truc au départ. Voilà, nous, ce qu'on voulait, c'est avoir notre Walkman à l'époque, écouter du rap, etc. Et mon père, il nous faisait écouter Matou Bounès, Slimane Azem, etc. Et petit à petit, fil en aiguille, la culture, je l'ai un peu appris sur le tas. Comme j'étais dans mes études d'histoire, Et là, je découvre des choses formidables. Quand on parle de l'église chrétienne, en fait, qui prend son essor en réalité en Afrique du Nord, je me dis, c'est pas possible. Quand on parle de l'Empire romain, on me dit que des populations indigènes de l'époque, on les appelait comme ça, sont devenues des Romains. Voilà, c'est des choses qui m'ont passionné. Ça m'a permis de savoir que j'avais une histoire, en fait. On est un peu des citoyens un peu hybrides. T'es français, t'es algérien, t'es ceci, t'es cela, on sait pas trop. Donc en plus, c'est toujours les autres qui disent que vous êtes. Et là, en fait, le fait de découvrir, de me réapproprier mon histoire, j'ai dit non, c'est ce que je suis moi, c'est ça.
Et puis finalement, de redécouvrir votre berbéritude, ça vous a donné aussi envie de rendre hommage à toutes ces femmes kabyles qui habitent ici.
Mais c'est marrant que vous parlez de berbéritude. Quand on lit Aimé Césaire, en fait, on comprend ce que l'on fait. En lisant Aimé Césaire, je sais ce que je vais faire. En lisant France Fanon, je me dis, mais finalement, ils avaient raison. Ils ont défolklorisé l'histoire de l'Afrique. Ils ont redonné la place du peuple autour de l'histoire. Et c'est un peu ce qu'on fait avec les mamans. Elles reprennent leur place avec leur propre histoire et avec leur propre trajectoire. Elles se réapproprient leur histoire et l'espace public.
Aujourd'hui, c'est le nouvel an berbère, INAR. En France, la mairie de Paris organise chaque année une réception. Et pour la première fois, en Algérie, en 2018, cette fête est un jour férié.
Bonne année à ce qu'on s'amuse.
À Drancy, les femmes ont préparé les plats du pays et les familles se retrouvent. Les grands-mères sont les gardiennes de la tradition. Elles portent leurs plus belles robes brodées aux couleurs vives et laissent entrevoir quelques bijoux berbères. Ce soir, elles se racontent comme Fatma, l'histoire de toute une vie au pays.
Ça lui manque, la Kabylie, ça lui manque beaucoup. Même si elle est venue, son cœur, il est toujours en Kabylie. Quand ses enfants sont venus en France, elle les a suivis. Elle ne pouvait pas rester toute seule là-bas et elle est venue aussi. C'est elle qui a élevé toute seule ses enfants. Elle a cueilli des olives pour revendre l'huile d'olive pour pouvoir survivre. Elle faisait tout elle-même parce qu'elle était toute seule. Dina, mais elle... Ça rentre pas dans la tête, ça veut pas rentrer dans la tête des Français. Elle préfère parler sa langue maternelle.
Bonne année à ce que ça me gaz.
Ça, c'est ses petits-enfants déjà qui arrivent. Ça, c'est sa petite-fille.
Voilà, je discutais avec votre grand-mère qui est
la
vraiment...
Maman, oui.
Un puits de tradition.
Je confirme.
Et bonne année, hein.
Ben, bonne année à vous, hein. J'imagine que le fait que vous veniez à 36 quand même, toute la famille avec la grand-mère, tous les enfants, les petits-enfants, fait que cette question de transmettre ces traditions, du coup, elle doit moins se poser pour vous.
Pour nous, on a ramené, si vous voulez, nos origines ici, tout ce qui nous rattache à l'Algérie finalement. Moi, je suis arrivée ici à l'âge de 21 ans.
Mais ça a dû être quand même un sacré choc pour
vous. Non, moi j'ai cherché à travailler, j'ai cherché à comprendre. En fait, j'ai trouvé ma liberté, j'ai senti que je suis femme pour une fois de ma vie et que j'existais et que quelqu'un m'a écoutée quand je parlais. Avant, je ne lisais pas les livres, par exemple, sur l'histoire de Amazir, si vous voulez. Maintenant, ici, j'en trouve des livres. En Algérie, je n'ai jamais été votée, par exemple. Et quand je suis arrivée ici, oui, pour moi, c'était une liberté. Enfin, c'est toujours le mot qui revient. Hein. C'est, ici, je me sentais française et kabyle en même temps.
J'ai déjà oublié comment ne plus t'aimer. Stopper la machine infernale. J'ai déjà oublié comment ne plus t'embrasser. Elle m'hypnotise, ma déesse adorée. Chérie, chérie, laisse-moi te réchauffer avec les mots troublés. Ton chenapan violent. Chérie, chérie, laisse-moi m'aventurer dans la beauté cachée de ma reine de cœur. J'ai déverrouillé le cadenas givré. En embuscade, j'ai guetté ton arrivée. De l'autre côté de ce pays éphémère,
J'ai dérobé des baisers de lumière. Chérie, chérie, laisse-moi te révolutionner en orbite tout autour de ma reine de cœur. Chérie, chérie, personne ne décapite, même sous la terreur, ma reine de cœur. Chérie, chérie.
Pour la programmation musicale, à Farine Mamry, au Centre franco-berbère de Drancy et de Paris, à Arnaud Contreras, à Rally de l'association Tilit, Michel Pierre et la Diaspora Touareg. Merci à toutes ces personnes de m'avoir accordé leur confiance, aux anthropologues, aux ONG, à France Inter et à toute l'équipe.
Voyage en terre indigène sur France Inter.
Montage Marie Baucher, assistée de Charlotte Delavaloir, mixage Rémi Quincé, un documentaire réalisé par David Rocher.
Une série d'Anne Pastor.
Une autre manière d'être, de vivre et d'agir dans le monde, c'est le message de ces oubliés de la francophonie que vous avez entendu cet été dans Voyage en terre indigène. Qu'ils soient amérindiens, pygmées, berbères ou peuls, ils se battent encore pour gagner leur place et leur liberté. 2019 sera l'année des peuples autochtones. C'est un espoir pour faire entendre de nouveau leur voix et le début d'une reconnaissance internationale. En attendant de les retrouver, vous pouvez réécouter tous les épisodes de la série sur franceinter.fr. À très bientôt.